France Culture, Le Grand Tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours au Havre ce soir et je vous propose une promenade sur les pas de l'architecte Auguste Perret, dont nous commémorerons en 2024 les 150 ans de la naissance. Lise, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accompagner ce matin au Havre, sur les pas d'Auguste Perret. Alors là, on vient de partir de la gare.
On part de la gare, on a les quartiers sud sur notre gauche, c'est-à-dire une partie ancienne de la ville, la partie 19e siècle du port qui a été donc rénovée, remise au goût du jour. Et pour les docks Vauban, refait par les architectes Reichen et Robert. Anti-stop en cours de route et nous sommes ici à l'entrée du projet de reconstruction puisque la reconstruction du Havre couvre 150 hectares. C'est un élément très très important de ce qui a été confié à Auguste Perret, c'est-à-dire qu'on ne confie pas à un architecte ce qu'on lui demande habituellement, un îlot ou trois ou cinq avec des immeubles à reconstruire ou voilà, un aménagement de logements ou de structures. Mais on lui confie une ville à reconstruire, puisque ce sont 150 hectares du centre-ville du Havre qui ont été détruits en une seule fois, en 2 heures très précisément, le 5 septembre 1944, de 18 à 20 heures, par des bombardements alliés.
Alors là, on vient de descendre de voiture. Où est-ce que vous nous emmenez ?
Donc, nous allons aller découvrir un des îlots de la reconstruction du Havre, puisque la reconstruction du Havre comprend 100 îlots de 100 logements chacun. Donc 100 par 100, ça fait 10 000. Hein. Voilà. Et 10 000 logements pour une moyenne de 4 personnes par logement. Donc le relogement pour 40 000 personnes. Voilà ce que c'est que la reconstruction du Havre. Donc on a un îlot qui est d'ailleurs maintenant classé au monument historique. Les gens du Havre ont toujours utilisé le numéro des îlots sur les plans de la reconstruction pour désigner leur lieu de vie. Donc c'est l'îlot V40. Donc les gens ici disent « j'habite dans le V40 ». Et tout le monde sait ce que c'est en gros. Hein, voilà, quand on est à Vray, on sait que les gens habitent en centre-ville. Voilà. Et on choisit Perret pour la modernité de ses constructions. Il a utilisé toute sa vie uniquement le béton comme matériaux, ce qui va permettre au ministère de la Reconstruction de se démarquer par rapport à la version précédente, puisque là, on se lance dans la modernité.
En utilisant un matériau qui n'est pas encore utilisé partout.
Voilà, hein, qui à ce moment-là est encore quelque chose d'inhabituel. Ce sont 80 000 personnes qui ont perdu leur logement en 2 jours de bombardement au Havre. Et ces 80 000 personnes représentent la moitié de la population. Donc, bien sûr, on veut construire quelque chose de beau, disait Perret, et de durable.
Alors là, vous mettez la clé.
Je mets la clé, mais alors, vous voyez, la clé d'origine, dans la porte d'origine, et nous entrons donc dans le hall d'un des immeubles. Donc nous quittons la cour intérieure de l'îlot qui était ouverte sur la rue. On ne veut plus de cour d'îlot fermée qui était ce que l'on construisait avant-guerre. Et là, nous entrons dans le hall de l'immeuble. Donc nous sommes dans un des tout premiers immeubles construits, un des 4 premiers îlots construits dans cette reconstruction. Ce que vous voyez autour de vous est très, très sobre, semble modeste. Et j'ai envie de vous dire, il y a quand même un travail très important sur les bétons, puisque vous avez au moins 5 sortes de textures de béton autour de vous. Alors bien sûr, les guides du Havre sont des guides qui parlent beaucoup de béton, et en général avec beaucoup d'enthousiasme, puisqu'il a quand même fallu, on nous a demandé de travailler aussi en visant les publics havrais, qui ont très longtemps souffert du dénigrement de la beauté de leur ville, pour leur expliquer l'histoire de leur ville, les bombardements et l'urgence humaine que représente cette reconstruction sont très importants à comprendre pour prendre un petit peu de distance par rapport au béton et comprendre par contre à quel point le béton a été utile.
Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, cet immeuble là où on se trouve est extrêmement contemporain.
Ah mais oui, bien sûr, bien sûr.
Alors là, on vient de rentrer dans un des appartements qui semble tout de suite très lumineux.
Alors ici, nous entrons dans l'appartement témoin, donc vraiment une reconstitution d'un des intérieurs de la reconstruction. Hein, et la première chose que nous découvrons, c'est la colonne de béton qui nous accueille, donc du béton bouchardé, avec des belles arêtes, hein, voilà, en béton lissé. Donc de la texture de béton, puisque cette colonne est laissée visible. Donc on suit encore les principes hygiénistes hein, qui ont été mis en pratique avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on veut donner aux gens de l'air, de l'espace, du calme et du soleil. Voilà. On va faire un petit tour.
Oui, donc c'est vraiment une reconstitution, comme si encore une famille habitait là, hein, la table est mise.
Alors, Gabriel est un concepteur de mobilier que Perret connaît bien, et Gabriel lui crée cet ensemble de mobilier que vous voyez autour de nous ici. Une table avec des chaises, mais aussi donc, un coin repas, un coin salon, tout ça c'est nouveau, hein. Le buffet, des petites tables basses, et puis cette
les meubles de rangement, une desserte.
La desserte, et vous avez, donc, on a cette présentation de ce logement assez ouvert. Voilà ce qu'on découvre très précisément ici.
Alors voilà, on vient d'arriver devant cette église Saint-Joseph.
Alors, une église Saint-Joseph extraordinaire, 50 000 tonnes de béton. Je crois que je vous ai tout dit en une expression, on pourrait garder juste ça comme ça. Ici, voilà cette église hein, avec donc à l'intérieur du béton brut de décoffrage, c'est-à-dire du béton sur lequel on voit les traces des planches de bois qui ont été utilisés pour créer les poteaux que nous voyons tout de suite.
Ah, c'est toujours très impressionnant. Hein. Quand on rentre dans cette église, oui. Il y a des vitraux colorés de petite taille. Enfin, c'est des petites ouvertures, mais qui donnent à cette église quand même quelque chose d'unique.
Il reconstruit cette église et il va réutiliser des plans qu'il avait fait dans les années 20 pour une église Sainte-Jeanne d'Arc à Paris qui ne lui a pas été attribuée. En fait, vous avez ce que j'ai appelé les claustras, hein, ces parois de décoration géométrique percées qui sont les seules fenêtres de l'église. Et le seul endroit, c'est ce que Marguerite Huré va devoir utiliser pour placer ces vitraux décoratifs. Nous avons 12 768 morceaux de verre coloré. Soufflé à la bouche, c'est la technique ancienne. Donc Marguerite Huré a en quelque sorte utilisé la technique du Moyen-Âge pour créer ses vitraux, parce que ça donne une épaisseur et une irrégularité au verre produit qui permet d'être traversé d'une façon différente par la lumière. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir un petit rayon de soleil et la paroi du sud à notre droite qui contient des belles couleurs très chaudes, hein, jaune, orange, rouge. Et les couleurs sont très très sombres, très foncées, hein, très riches dans le bas des murs, puisqu'elles s'éclaircissent au fur et à mesure pour s'éclaircir encore dans la tour et donner cette impression d'élan de la tour vers le ciel. Mais ces couleurs très riches produisent la lumière dorée, qui est la seule demande que Perret ait faite à Marguerite Huré. Je voudrais que vous produisiez dans mon église une lumière dorée. Alors nous sommes dans une église catholique, et la lumière dorée, c'est le symbole de la résurrection.
Bien, merci beaucoup pour cette visite, c'était passionnant. Et on finit ici dans cette église Saint-Joseph. Et en effet, la lumière dorée vient d'apparaître, le soleil est de la partie. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci d'être venu découvrir notre ville.
Merci à vous, Marie Sorbier. On vous retrouve demain dans l'Aveyron pour nous faire découvrir un service d'art à domicile.